Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangou. Il vient d'être à 17h tout de suite à Le Journal en français dans une présentation de Nafissa Domsirfo. Au sommaire, en visite de travail en Turquie, le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lemizen s'est entretenu avec le président turc sur les relations politiques et économiques entre Niamey et Ankara. Des précisions sont à suivre dans ce journal. Le gouvernement de transition du Niger désapprouve la position du Nigeria qui rejette la décision de retrait de Niamey de la CEDEAO. Le point dans un instant. Le magazine Culture du jour a fait un zoom sur la 9e édition du Festival d'Ogo Oboganya, tenu le week-end dernier à Bamako. Le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lemizen a poursuivi sa visite de travail en Turquie. Selon un communiqué publié par le service de communication turc, le premier ministre et le président turc ont échangé hier sur les relations politiques et économiques entre Niamey et Ankara. À l'issue de cette rencontre, Recep Tayyip Erdogan a affirmé son engagement d'apporter son appui au Niger sur tous les plans afin qu'il soit un pays indépendant, a indiqué la même source. Suite à la décision annoncée le dimanche 28 janvier par le Niger, le Burkina Faso et le Mali de se retirer sans délai de la CEDEAO, le ministère fédéral des Affaires étrangères du Nigeria a, dans un communiqué le 29 janvier, regretté la décision de ces pays de l'AES, une réaction que les autorités du Niger ont rejetée dans un communiqué publié ce jeudi 1er février. Le point avec Rafika Taher.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria souligne, je cite, que depuis un demi-siècle, la CEDEAO œuvre pour promouvoir la paix, la prospérité et la démocratie dans la région. Avec cette décision de retrait de la CEDEAO, les dirigeants militaires non élus de ces trois pays adoptent une posture publique visant à refuser à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant la liberté de circuler, la liberté de commercer et la liberté de choisir ses propres dirigeants. En réponse, le ministère des Affaires étrangères du Niger, dans un communiqué publié le 1er février, a exprimé, je cite, « sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer de la CEDEAO. Niamey rejette avec sérénité les propos qualifiés d'impertinents de la République fédérale du Nigeria car ils ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre le Niger et le Nigeria, deux pays frères. Par ailleurs, le Niger rappelle que sa décision souveraine prise de concert avec le Burkina Faso et le Mali dans la solidarité et l'union a été mûrement réfléchie et fait suite à plusieurs constats.
En bref, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de brigade Sani Kaché, a procédé hier 1er février à Niamey au lancement du recrutement du 2e bataillon de la réserve militaire opérationnelle. Ils seront entre 300 et 1200 hommes pour sécuriser les projets de développement et soulager les forces de défense et de sécurité en activité compte tenu de la situation sécuritaire actuelle selon une dépêche de l'Office national d'édition de presse à ONEP. La préfecture de Diffa a installé un poste de contrôle entre les populations de Gagamari et celle de Chetimari. Ce poste a développé une incompréhension entre les deux villages. Pour comprendre la situation, Guidi Abdourahmane a approché le secrétaire général de la préfecture de Diffa. On écoute Brem Mahaman.
C'est juste un poste de contrôle qui va permettre aux gens de circuler librement entre le Niger et le Nigeria. Donc, compte tenu de l'insécurité, alors il va falloir qu'on contrôle les gens qui vont et qui reviennent. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a fait un poste de contrôle et qu'on a placé des gens connus du terroir et qui vont voir des mouvements des gens. S'il y a des personnes suspectes, on les interpelle par rapport à ça. Donc, maintenant, après le retrait de la Koumadougou, nous, on avait pensé que les gens se sont entendus parce que là, il s'est agi d'un problème de chargement et de déchargement. Donc il y a un groupe qui souhaite que quand les marchandises ou les passagers viennent, qu'on les décharge à partir de Chetimari et que notre véhicule traîne pour les amener à la frontière. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Alors devant ces genres de circonstances, alors il va falloir obligatoirement se référer au texte. Qu'est-ce que les textes disent? Est-ce que en matière de transport, est-ce que quand tu prends un passager à mi-chemin, tu dois le décharger ou bien tu vas le ramener à la destination finale?
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a suspendu l'autorisation d'exercice de la Maison de la Presse. Dans le même arrêté, il est dit qu'il a créé un comité ad hoc pour gérer les activités de la Maison de la Presse. Soulaye Zabayrou, président de l'Association nigérienne des éditeurs de presse indépendante pour la rédaction de son organisation, réagit donc au micro de Amadou Harouna Djibo Ismaël.
C'est avec regret que nous avons appris cela parce que c'est une première fois dans l'histoire de la presse nigérienne. Parce que même autant de temps, en 2007-2008, autant de Yamendi, c'était le retrait de la Maison de la Presse, pas la suspension de la Maison de la Presse. La Maison de la Presse a été construite et donnée aux médias en 2004-2005 lors des Jeux de la Francophonie pour permettre aux journalistes nationaux et internationaux de se retrouver. Et pour suspendre une association, je pense qu'il faut qu'il y ait une faute grave. Parce que l'arrêté n'a pas notifié les raisons de la suspension. Certes, il y a une crise entre les associations, une crise de confiance entre les associations par rapport à un bureau qui est arrivé au terme de son mandat. Nous, à un moment donné, on a fait une déclaration pour demander la médiation, pas la suspension, la médiation du ministère de la Communication.
Parlons santé. Débutée le 22 janvier, la deuxième campagne de riposte contre la diphtérie dans le département de Kanché a pris fin le 26 du même mois. Ce deuxième passage avait comme objectif de renforcer l'immunité des personnes ayant reçu la première dose. Les résultats enregistrés sont satisfaisants malgré des difficultés rencontrées selon les responsables sanitaires. Ibrahim Salha, représentant du directeur régional de la santé publique de Zender, est au micro de Habou Serki Saleh.
Depuis la déclaration de la maladie, les gens sont vraiment en train de se battre pour qu'on arrive à éradiquer la diphtérie dans notre département. Et vous voyez le pourcentage qu'il y a au niveau même des Zender. Dans le 2000 et quelques, Matamay a réussi presque le 50%. Vous avez vu, on a fait deux passages, round 1 et round 2. Round 1 et round 2, vraiment, on a eu des résultats satisfaisants. Et vous n'êtes pas seul le savoir avec l'appui de l'OMS, même le camp de Kanché, vraiment, ils sont en train de nous appuyer en dehors même de la vaccination. Moi, je n'ai pas pensé qu'on arrive à avoir ces résultats escomptés. Vraiment, les gens ont fourni beaucoup d'efforts. Vu le rumeur qui s'est passé l'autre passage avec des effets indésirables chez les enfants, je n'ai pas pensé qu'on arrive à avoir les résultats.
La réunion du comité régional de gestion de l'épidémie tenue le 30 janvier à Agadez a fait cas donc de la situation de la diphtérie dans la région et des difficultés rencontrées dans la lutte contre cette épidémie. Des engagements ont été pris par les partenaires de proximité de la région, a indiqué Hamissou Mamman, chef du service programmation et information sanitaire, interrogé par Anissé Karim.
À la semaine 4, un cumul de 49 personnes qui sont touchées par cette maladie, 30 qui sont guéries parmi eux et 15 qui sont en cours de traitement, malheureusement 4 décédés. Donc soit un total de 30 sorties avec une létalité de 8,6% et un taux de guérison de 86%. Maintenant, dans le cadre de cette lutte contre l'épidémie, on a discuté des difficultés qu'on est en train de rencontrer, notamment l'insuffisance des matériels de prélèvement et transport d'échantillons, une insuffisance des ressources pour la conduite des investigations, les sites de prise en charge aussi, on a des difficultés par rapport à ça, qui est inadapté. L'insuffisance de certains équipements au niveau du site pour la prise en charge des cas graves et une insuffisance des ressources humaines qualifiées pour la prise en charge. Donc, à l'issue de la réunion, on a pris des perspectives, notamment le renforcement de la coordination, poursuite de la prise en charge gratuite des cas, la poursuite de la vaccination à routine, qui est gratuite, aux organisations d'une riposte à long terme par rapport à cette maladie, vu que le vaccin n'est pas tout à fait prêt.
L'actualité toujours en région au moment où le département de Birnin-Kwani est confronté aux problèmes d'insécurité liés à la situation qui prévaut au Nigeria. Les leaders religieux du département se sont réunis pour implorer Dieu afin que la paix règne à Kwani et dans le Niger. Pour plus de précisions, écoutons l'imam Amadou, prédicateur au micro de Asman Moussa Rizika.
Nous nous sommes réunis ici pour un seul objectif, prier pour la paix dans notre pays, surtout dans notre département et alentour, face à l'insécurité et aux enlèvements des personnes. Les marabouts de la ville, les imams des différentes mosquées se sont réunis ici pour la lecture du Saint-Coran et solliciter la protection divine pour que la paix revienne dans notre pays. Cette séance de lecture du Saint-Coran s'est déroulée dans la sérénité, en présence de nos hautes autorités, à savoir le chef de canton, le préfet et les marabouts. Après ça, les différents imams continuent les prières dans les mosquées, notamment pendant les prières de vendredi.
En sport, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes-Côte d'Ivoire 2023 débutent ce vendredi 2 février. Il ne reste plus que 8 équipes en course pour le trophée. Quels sont les enjeux de ces quarts de finale? Pour cela, écoutons l'analyse de Lawali Garba, spécialiste en football, au micro de Salam Toukadri.
Les enjeux sont multiples, ils sont très colossaux et c'est toujours des surprises. Figurez-vous, aucune des 8 équipes-là qualifiées en quart de finale n'était présente à ce stade en 2022. Donc, au Cameroun en 2022, c'était le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Gambie et le Cameroun, en plus la Tunisie qui étaient les équipes pour les 8e de finale. Et c'est dire que cette année, tout est bouleversé et que tout peut arriver dans un match comme on le dit. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Mali sont considérés comme le trio de cette CAN pour le sacre final. Mais ce que nous pouvons retenir le plus positif, c'est que au niveau de cette CAN, nous avons constaté la montée en puissance des sélectionneurs africains. Il y a 14 sur 24 à cette CAN et qui ont eu des résultats très intéressants. Ça veut dire que tout est possible au niveau de ces quarts de finale.
Le magazine de ce journal, la 9e édition du festival Dogon au Bogagna, s'est achevé le week-end dernier à Bamako, sur les berges du fleuve Niger. L'événement se tient chaque année dans la capitale malienne à la place du cinquantenaire. Du 22 au 28 janvier 2024, les organisateurs ont proposé des conférences scientifiques, des expositions ventes d'œuvres artisanales, des prestations musicales d'artistes de renom et la promotion de l'art culinaire ouest-africain. Rafika Taher, notre envoyé spécial revient de Bamako. Écoutons son reportage.
À l'espace d'une semaine, la place du cinquantenaire au cœur de Bamako se transforme en ville Dogon. Des artisans venus du pays Dogon et d'autres horizons y exposent le fruit de leur création. Le festival Dogon Ogobagna ouvre ses portes à d'autres artisans ouest-africains. Parmi eux, Alkassou Mahamadou, artisan nigérien. Pour sa première participation, Isaac Salifou se dit satisfait.
Dieu merci, malgré que les clients viennent en compte-gouttes. Les choses ont changé. Le commerce n'est pas comme avant. Certains gagnent, d'autres ne gagnent pas. On arrive à gagner quelque chose avant de retourner à la maison.
Donc moi j'ai appris avec mes amis que vraiment c'est intéressant pour un artisan de venir s'exposer. Et je vendais des poufs en cuir, des ceintures, portefeuilles, de bijoux aussi et le net aussi traditionnel. On est à peu près plus de 15 personnes.
Les participants nigériens ont bravé des défis transfrontaliers pour profiter du festival Ogobagna. Explication de l'artisan Alkassou Mahamadou.
Nous rencontrons beaucoup de difficultés en cours de route. D'abord, quand nous prenons le véhicule, arrivé à Gaya, nous sommes obligés de prendre la pirogue pour la traverser jusqu'à Malinville. Et avant de rentrer dans la ville, il faut donner de l'argent à la police. Nous payons de l'argent au moins 3 fois. En plus, au niveau de la douane, nous sommes obligés de verser de l'argent, malgré qu'on possède un ordre de mission. Auparavant, pour arriver à Bamako, nous passons un seul jour. Mais maintenant, il faut passer 3 jours.
Anticipant un manque à gagner, Alkassou Mahamadou sollicite du gouvernement un appui conséquent au regard du contexte sociopolitique que traverse le Sahel. On les
Nous demandons à nos autorités d'aider les artisans, leur faciliter les choses quand ils vont sortir du pays avec leurs produits. Par exemple, prendre en charge les stands. Mais avec les difficultés du moment, nous ne pensons pas à cela. Notre souhait, c'est de dépasser cette crise d'insécurité, mais pas prendre de l'argent avec les voyageurs.
Le festival culturel Dogon Ogobagna s'impose désormais comme un rendez-vous annuel incontournable à Bamako. Une opportunité pour les artisans, commerçants, restaurateurs et entreprises de la sous-région pour écouler le maximum de produits. Des troupes traditionnelles venues de tout le Mali agrémentent le village Dogon Ogobagna en danse et musique.
Fin de ce ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.